Shalom, Bokertov, oula, j'ai dit Erevtov, Bokertov et Koulam, a l'air de pas mal bugger. Voilà, ça revient, ça revient pas, ça revient. Voilà, ça a l'air d'être là. Voilà, ça a l'air de marcher. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, oui, non, non. Oui, oui. Ça y est, ça marche. Ça marche très bien. Très, très bien. Alors, puisque ça marche, eh bien, c'est parti. Boker Tov, les Koulam. Alors, jeudi matin, normalement, on étudie la Nevoa dans tous ses états. Mais, aujourd'hui, eh bien, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas étudier la Nevoa, puisque nous allons parler d'une période post-Nevoïte, une période après la névoie, puisque en malasot, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix. Alors d'abord, je préviens que la semaine prochaine, jeudi matin, il n'y aura pas cours à cause de Hanouka, hein, tous les enfants sont à la maison, nanana, donc ça va être un peu compliqué. Donc je me ressentais l'obligation de vous parler de Hanouka ce matin, parce que voilà, en malasot, ce soir c'est Hanouka, et il faut se préparer un petit peu. Alors, pour toutes celles et ceux qui se poserait la question, en disant, ah, quoi, il va nous parler de Hanouka? Mais pourtant, il a fait un cours sur Hanouka il n'y a pas si longtemps, sur YouTube, et donc, est-ce qu'il va me redire la même chose? Eh bien, non. L'objectif, c'est de pas dire la même chose aujourd'hui. Donc, si quelqu'un a entendu mon cours sur Hanouka d'il y a quelques jours, de mardi, quoi, eh bien, vous inquiétez pas, ça sera pas le même. Alors, allons-y, rentrons directement dans le vif du sujet, et je vais commencer par une question. Le titre du cours, c'est Roi et Cohen, même combat. Donc vous allez voir qu'on va parler de nos Hashmonaïm qui étaient Melachim et Kohanim. Mais avant cela, j'aimerais lancer les hostilités avec une petite question, une question d'ordre technique. Nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat, à la page 21, on dit « Tanou Rabbanan ». Alors, quoi Tanou Rabbanan ?« Ner Chanouka, mitzvat Chanouka, ner ishu beito ». והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחד והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך. Voilà notre question. Vous savez comment ça marche, l'allumage de Hanouka? Eh bien, d'après la halakha, pure et simple, eh bien, je devrais allumer une bougie le premier soir de Hanouka. Voilà. Si ce soir j'allume une bougie de Hanouka, zéou. J'ai fait ma mitzvah de Hanouka, je peux partir en vacances pendant une semaine et j'ai plus besoin d'allumer quoi que ce soit. Ça, c'est pour être quitte de la mitzvah de Hanouka. Aval, mehadrin, on allume une par soir. Ou alors yeshomrim, une par personne le premier soir. Et mehadrin, mina mehadrin, c'est d'allumer, et là, c'est là que les choses se corsent, Bet Hillel Bet Shammai Omrim de 8 à 1 et Bet Hillel Omrim de 1 à 8. Lama Makara. Et ma question, en fait, elle est extrêmement simple. Vous allez me dire, des machlokot entre Bet Hillel et Bet Shammai, il y en a plein. Donc ça ne devrait pas nous étonner. Ça va, c'est une machlokot, pourquoi tu t'excites? Dis non, j'entends bien. Mais lorsqu'il y a un enseignement sur une compréhension de la Torah, alors il peut y avoir machlokot. Parce que voilà la tradition qu'on a reçue de l'enseignement. Moi, je l'ai compris comme ça, toi, tu l'as compris comme ça. Mais l'allumage des bougies de Hanouka, comme je l'ai expliqué dans le cours précédent sur Hanouka, c'est un minhag. Et le mot minhag veut dire, en français, ce qu'on fait. Minhag, ça vient du terme linhog, noheg, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, il ne peut pas y avoir de machlokot sur des minhagim. Puisque le minag, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc tout le monde fait la même chose. Et tout le monde sait comment on fait. Donc comment est-ce qu'il peut y avoir une machloket Bet Hillel Bet Shammai sur le minag de comment on allume les bougies de Hanouka? C'est quelque chose qui devrait être une évidence. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une compréhension. Il s'agit de reproduire ce que ton père il a fait, de ce que de la génération avant on fait. Donc Bet Hillel et Bet Shammai, c'est bien gentil qu'ils se disputent qu'est-ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Et comprenez bien que Beth Hillel et Beth Shammai, c'est à peu près 200 ans après Hanouka. Ah, 180 ans, 150 ans. Mais c'est bien après Hanouka. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Comment est-ce qu'on peut arriver à une marloquette sur un minhag? Et donc, comment c'est arrivé que Hanouka, eh bien, on ne sache pas s'il faut l'allumer de 1 à 8 ou de 8 à 1. Les amis, c'est notre question de base. Je la mets de côté, comme d'habitude, et j'y reviendrai beaucoup plus tard. Alors, allons-y. Bon, les dames, les autres de l'époque n'ayant fixé que le halal et l'oda, à quel moment le minhag d'allumé a été institué? C'est une très bonne question. Et je te renvoie au cours que j'ai donné mardi, dans lequel j'explique que ce minhag a été instauré dès l'époque de Hanouka. C'était un minhag qui venait contrer la xéra de la Brit Mila, tel qu'on peut retrouver dans le livre de Flavius Joseph. Bekitsour, je sors de mon histoire de pourquoi il y a le marloquet, on y reviendra, et je rentre dans mon sujet qui a priori est le sujet principal, à savoir Melachim, Kohanim. Même combat, est-ce que les Hashmonaïm ont eu raison de prendre le pouvoir? Alors, évidemment, on pourrait tout de suite parler de Montesquieu, avec la séparation des pouvoirs. Bien sûr, on pourrait tout de suite dire que ce n'est pas bien qu'il y ait dans les mains d'un seul homme, eh bien, le pouvoir politique, le pouvoir sacerdotal, le pouvoir judiciaire, et ainsi de suite, la séparation des pouvoirs, eh bien, est le garant de la démocratie. Bon, très bien, mais deux secondes, c'est pas Montesquieu qui m'intéresse ici. C'est la halakha. Haïm ze moutal, haïm ze assour. Est-ce que les Kohanim ont le droit, Bichlal, d'être Melachim? Est-ce qu'ils ont droit de prendre le pouvoir politique? Ze she'ela gdola. Et la vérité, c'est que c'est une marloquette entre le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli. Marloquette entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Yerushalayim, Talmud Yerushalmi, Maseret Torayot, chapitre 3, halakha 2, on nous dit très 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 simplement et très clairement, Ein Moshrim Melachim Kohanim. Rabbi Ezra. Qu'est-ce que se passe? Donc, En moshrim melachim kohanim, mishum, lo yasur shevet mi Yehuda. Je dis le Talmud Yerushalmi, on n'a pas le droit de couronner des kohanim, parce qu'il y a marqué, lo tasur shevet mi Yehuda. Dans la paracha de Vayechi, lorsque Yaakov va donner les brachot à ses enfants, et bien lorsqu'il arrive à Yehuda, il dit, lo tasur shevet mi Yehuda. C'est-à-dire que, aucune autre tribu à part Yehuda ne pourra diriger. Donc, ici, d'après le Talmud Yerushalmi, seule la tribu de Yehuda, et plus exactement la famille de David, a le droit d'être roi. Donc, c'est-à-dire que le problème n'est pas tant que les Kohanim aient pris le pouvoir, mais c'est que c'est une autre tribu à la place de Yehuda. Donc, d'après le Yerushalmi, il semble évident que c'est pas bien, que les Hashmonaïm aient pris le pouvoir. Tov, j'entends, mais qu'est-ce qu'on nous raconte dans le Talmud Bavli? Dans le Talmud Bavli, on nous dit la chose suivante. Donc on est au chapitre, Maseret Kiddushim, page 66, Amoud Aleph, Samervav Amoud Aleph, on nous dit, Vayomer Yehuda ben Grida le Yanaï Melech. Yanaï Melech, Rav Lecha Keter Malchut, Hanach Keter Keuna le Zaro shel Aaron. שיהיו אומרים אמו נשבט במודיעין. מה הסיפור? Eh bien, en fait, l'histoire ici, dans le Talmud de Babylone, traité de Kiddushin, on voit que le Sanhedrin est un grand problème avec le roi Yanaï. Yanaï, c'est Alexander Yanaï, Alexandre Janet en français, qui est un des rois Hashmonaï. C'est, pour être exact, l'arrière-petit-fils de Matityahu HaKohen. Pourquoi pas? Ce roi, Alexandre Yanaï, a fait beaucoup de conquêtes. Agave, il a réussi à amener le pays d'Israël jusqu'à Eilat et jusqu'en Syrie presque. Donc, un grand conquérant. Et le roi Yanaï, les Chachamim ont un grand problème avec lui. Mais pourquoi ils ont un problème avec lui? Parce qu'il est roi? Non. Ils ont un problème avec lui parce qu'il est Kohen Gadol. Ma baya. Il y a un problème de halakha, tu n'es plus apte à être Kohen. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, une, toute une histoire, parce qu'ils disent que la mère de Yanaï, eh bien, la mère de Yanaï était une captive dans un camp militaire, que donc Chazaka, qu'elle a été violée, et que donc Chazaka, que son mari, le père de Yanaï, eh bien, lorsqu'il va avec elle, les enfants ne sont plus Kohen, ils sont Chalalim. Ils ont perdu leur Keuna. Donc les Chachamim viennent dire à Yanaï, tu es roi, ça suffit, tu ne peux plus être Kohen. Tu vois que d'après cette Gemara dans ma Maseret Kiddushin, eh bien, ce qui dérange les Kohanim, c'est pas qu'ils soient rois, c'est pas que quelqu'un de la tribu de Lévi ait pris le pouvoir, mais c'est que, eh bien, il n'est plus apte, digne à être Kohen. S'il avait été toujours apte, eh bien, on n'aurait pas eu de problème, d'après le Bavli, qu'il soit et Kohen et Meler. Donc, on voit que ici, c'est une marloquette entre Bavli et Yerushalmi. Est-ce que c'est des Seder que nos Hashmonaïm aient pris le pouvoir? Cette marloquette entre Bavli et Yerushalmi, eh bien, on va la retrouver chez les Rishonim. Le Ramban Nachmanide va nous dire très clairement, regardez, je cite dans son commentaire du livre de Bereshit, au chapitre même tête, il dit, וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשכחו התורה והמצוות. ואם הם נשכחו התורה והמצוות. נו די, לרמב"ן, הם קיבלו עונש, פורקוי, אז כאילו היו לה שוט דול הדינסטי חשמונאי, זאת אומרת, כאילו הם קמו סיכום די צדיקים, והם קמו סיכום די פורי, די פרסקו, הם פרי לפובה. נו, לרמב"ן, פורו, פובה. Donc le Ramban, pour eux, c'est le Beseder que les Hashmonaïm aient pris le pouvoir politique. Le Rambam, de son point de vue, va dire l'inverse. Il dit, non, bah putain, Bebaït Sheni, on est dans l'Ilchot Hanouka, chapitre 1, Alaha 1, nous dit le Rambam, Bebaït Sheni, כשמלכי יוון גזרו גזירות על ישראל ומגלומתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם במעון אמונותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות ותיאמו הטהרות וצר להם מאוד לישראל בפניהם ולחצו מלחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעום להם מידם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר ה-200 שנה עד החורבן השני. נגיד לו רמב״ם, כלפת דה חנוכה, c'est parce que non seulement on a battu les Grecs, mais qu'en plus on a mis un roi מן הכהנים. Donc le רמב״ם, il a aucun problème avec le fait que les כהנים aient pris le pouvoir politique. Qui a raison? האם ירושלמי רמב"ן או האם בבלי רמב"ן? כי הרזון. Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons nous poser une deuxième question, à savoir, mais quel est le rôle? Quel doit être le rôle des Kohanim? Quel doit être le rôle, de manière plus générale, des Lévi'im? Eh bien, vous savez, si je veux savoir quel est le rôle de quelqu'un, je dois connaître son nom. Et vous savez comme moi que le nom n'est pas simplement une indication pour reconnaître la personne, mais c'est son objectif dans la vie. Shem, ça veut dire en hébreu matara. Comme on dit en français d'ailleurs, je fais ça au nom de, ou le Shem Shamaim, c'est dans l'objectif de. Quand je donne le nom à quelqu'un, eh bien, c'est quelque part l'objectif que j'ai envie qu'il remplisse dans ce monde. En d'autres termes, comment s'appelle le père de tous les Kohanim? Il s'appelle Lévi. Non, ce n'est pas Rabbi Jacob qui nous dit « Cher Lévi !» Non, non. Lévi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Lévi s'appelle Lévi? Eh bien, pour ça, il faut tout simplement revenir aux origines de Lévi. Mais les origines de Lévi. Les origines de Lévi. Les origines de Lévi, c'est dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, on nous dit, au chapitre Kaftet, 29, verset 34, on dit « Vatar od, vatelet ben, vatomer apam, ata apam, yilave Ishi Elai. Léa accouche de son troisième enfant et elle dit, cette fois, il l'avait Ishi Elai. Ça veut dire quoi? Il l'avait. Il va m'accompagner. Mon mari sera avec moi. Qui Aldalos lo Shabanim? Parce que ça y est, je lui ai donné trois enfants. Alken, Kara, Shemo Lévi. Et là, on a un problème parce que si on veut dire que c'est Léa qui a donné le nom de Lévi, il aurait dû avoir marqué Alken, Kara. Mais là, c'est pas marqué Kara, c'est marqué Kara. Alors, qui l'a appelé Lévi? Eh bien, nous disent nos sages, le Rashi. Excusez-moi, Rashi va lui-même donner l'info. Il va dire Mi Kara Shemo Lévi. Ribono Shalolam. Hakadosh Baruch Hu va l'appeler Lévi. Lama, qui a pas, il l'avait. Mais il l'avait qui? Eh bien, il l'avait Ishi Elai. Dans la bouche de Léa, c'est Yaakov. Mais dans la bouche d'Hakadosh Baruch Hu, il a envie que Lévi soit Mitlavé Elav. Qu'il l'accompagne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans ce verset-là, eh bien, Yonatan Ben-Uziel, pas dans ce verset, c'est-à-dire dans le verset du chapitre 32, verset 25, Yonatan Ben-Uziel va nous expliquer quelque chose d'incroyable. Yonatan Ben-Uziel nous explique qui est Lévi. Et il nous dit qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Yaakov part, avant d'avoir des enfants, lorsqu'il part chez Lavan, il promet à Dieu qu'il va donner en maaser pour lui tout ce que Dieu lui donnera. Et donc, Yonatan Ben-Uziel nous explique qu'il pense particulièrement à ses enfants. Il dit, je dois donner maaser à Dieu, à mes enfants. Alors, c'est quoi le maaser des enfants de Yaakov? Eh bien, il dit, c'est très simple. Je dois mettre de côté les quatre Bechorot, parce qu'ils sont Bechorot, ils ont un statut particulier. Donc, il me reste 8 enfants que j'aurai, je n'ai pas encore. Et donc, je commence à compter le 10e. Eh bien, ce sera pour moi le maaser pour Dieu. Attends, il reste 8 enfants, le 10e. Alors, venez en compte. Réhoven, on le met de côté parce que c'est le Bechor. Donc, Shimon, Lévi, Yehuda. Ensuite, on a Dan, mais ça, on le met de côté, c'est un Bechor. Naphtali. Ensuite, on a Gad, on le met de côté, c'est un Bechor. Asher. Issachar, Zevulun. On met Yosef, et Yosef de côté, c'est un Bechor. On a Binyamin. Ça fait 8. On va arriver à 10. Alors, on reprend. Shimon, Lévi. Le 10e, c'est donc Lévi. Il nous dit, Adam Ben-Uziel, et donc, il savait que Lévi avait pour rôle d'être mitlavé la Kadosh Baruch Hu. Quel est son rôle à Lévi? Eh bien, le rôle de Lévi. Il nous dit le Rambam, dans les lois sur la Avodah Zara, au chapitre 1, où il nous raconte, en fait, l'histoire historique de la Avodah Zara. Il nous raconte également comment est-ce que Avraham a décidé de se battre contre cela. Avraham, on le sait, eh bien, il donnait des shiurim, il faisait des cours, il enseignait à tout le monde la emouna de El Echad, de Kadosh Baruch Hu. Mais Avraham, il enseignait uniquement à ceux qui voulaient bien venir écouter. Yitzhak également. Alors que Yaakov, il a pris son fils Lévi et lui a donné un rôle. Il dit, c'est quoi ton rôle? Toi, tu dois être responsable que kol ha'achim shelcha Emiedou Torah. Les Lamed Banav Kulam. Et c'est énorme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lévi, son rôle, c'est d'être mitlavé à Kadosh Baruch Hu, d'accompagner Dieu. Pourquoi? Pour que nous sachions toujours la Torah. La Torah. Lévi, son rôle, c'est de nous enseigner la Torah. Toujours. Et lui, il n'a pas le choix de faire un chiot et tu viens pas. Non! Lévi, son rôle, c'est que tout le monde soit relié à la Torah. Tu veux, c'est bien. Tu veux pas, c'est bien. Mais il va falloir quand même que tu le fasses. En d'autres termes, Lévi est le mémouné à la Torah. Yefemeod, aval eze Torah. Eze Torah est la Torah de Lévi. Lévi, ça va devenir Aaron à Cohen, ça va devenir les Kohanim. Les Kohanim sont donc préposés à l'enseignement de la Torah. Eh bien oui! Vous savez, ils bossent au Beth Amikdash, oui d'accord, mais le Kohanim bosse au Beth Amikdash 2 semaines par an. Hein, parce que ça tourne. Et une fois qu'ils ne sont pas au Beth Amikdash, ils font quoi? Ils enseignent la Torah. Mais quelle Torah? Le Dieu Pasouk, dans le livre de Michelet, le Dieu Pasouk incroyable, Shema Beni, Moussar Avicha. Ve Al Titosh Torat Imecha. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Shma Beni Moussar Avicha. Ve Al Titosh Torat Imecha. Écoute, mon fils, le moussard de ton père, et ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous dit Rashi, dans ce verset de Michelet, Rashi nous dit, Mazé moussar avicha, ve mazé Torah timecha. Pashut. Dit Rashi, Shema beni moussar avicha, ma shenitana kadosh baruchu, le moshe bichtav. Ve imecha, זה כנסת ישראל, במילים אחרות. מוסר אביך זה תורה שבכתב. תורת אמך זה תורה שבעל פה. Il semblerait donc que la Torah orale, c'est יסוד האימא. Alors que la Torah écrite, c'est יסוד האבא. D'accord, j'entends, pourquoi pas, c'est sympathique. Mais qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Les amis, on a parlé de la naissance des Kohanim, des Lévim, c'est-à-dire pour arriver aux Kohanim, les Kohanim sont les descendants de Lévi. Mais moi, j'ai une question. Qui sont les parents de tous les Lévi, de tous les Kohanim, c'est-à-dire qui sont les parents de tous les Kohanim? Sheila Tova. Oui. Vous vous dites, il est très fatigué. Et vous avez raison. Car oui, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, c'est vrai, j'avoue. Et j'avoue que j'ai pas beaucoup dormi. Et j'avoue que je suis crevé. Aval, l'honora. L'honora. La vérité, c'est que, mash l'honora. Parce que les chachamim, eux aussi, dans la Gemara, des fois, ils étaient fatigués. Et quand les chachamim, ils étaient fatigués, eh bien, nous dit la Gemara que qu'est-ce qu'ils faisaient pour se redonner de la force? Eh bien, yom esaprim milta dibdichuta. Ils racontaient des blagues. En plein milieu de leur étude, ils étaient fatigués, et donc pour ce brûle, eh bien, ils se racontaient des blagues. Et oui, Milta Dibdichuta, c'est ce qui nous permet de revenir en mode bécédaire. Donc, eh bien, je me dis que puisque je suis fatigué, eh bien, je n'ai pas d'autre solution que tout simplement de vous raconter une blague. Alors, allons-y. Je vais vous raconter une blague. Mais attention. Une blague d'Ashkenaz. Ah oui, messieurs, dames, c'est une blague d'Ashkenaz. Donc, ceux qui disent « Oh là 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 !» Eh bien, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Alors, la blague, elle est très simple. C'est la blague, c'est Moïchele. C'est Moïchele, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et bon, Hachem, il a 120 ans, et ça y est, il sent qu'il va partir, hein, il en a plus pour très très longtemps. Et puis là, tout d'un coup, il y a son arrière-petite-fille, Dvoirele, qui arrive dans la chambre pour voir son arrière-grand-père, et il dit, quand vas-tu, pépé? Et là, Moïchele lui dit, Oïdvorele, et lui dit, oh, qu'est-ce que c'est, schmeckt gut? Oh, c'est une bonne odeur, ça, je connais cette odeur, ça, c'est le strudel de mamie, oh, y'a va voy, bon, shalom, Dvorele, s'il te plaît, tu peux aller m'en chercher, un petit bout de strudel, comme ça, je me sentirai bien. Et je pourrais partir heureux. Alors, elle part. Et elle va chercher dans la cuisine Strudel. Et elle revient. Les mains vides. Et la Moïse, elle lui dit, mais pourquoi tu m'as pas amené Strudel? S'il te plaît, j'avais demandé Strudel. Et là, elle dit, mais j'ai voulu. J'ai été en bas, j'ai pris une assiette. Et là, ma mamie, elle m'a dit non. Elle m'a dit, tu touches pas au Strudel. Le Strudel, c'est pour la Shiva. Ça, c'est de la blague d'Ashkenaz qui nous requinque. Alors, c'est parti! Donc, je disais, avant cette Milta d'Ibdichuta, que je posais la question, qui sont les parents de tous les Kohanim? Oui, je sais que tu as ri, mais heureusement que tu as ri. Elle était très bien, ma blague. Bekitsour, t'as vu ou pas? Bekitsour, qui sont les parents de tous les Kohanim? D'ailleurs, il paraît que tu viens chez moi lundi. Voilà, j'ai pas compris. Il paraît que tu viens chez moi lundi. Bon, ben, la brioute. En tout cas, qui sont les parents de tous les Kohanim? Ephémeron. Qui sont les parents de tous les Kohanim? Nous, au lieu de dire des bêtises, tu peux peut-être m'expliquer qui sont les parents de Kohanim? les parents de tous les Kohanim, c'est qui? Ben, c'est Aaron. Aaron à Kohen. Oui, mais Aaron, il n'a pas fait un bébé tout seul. C'est pas comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman. Donc, qui sont les parents de tous les Kohanim? C'est Aaron et la femme d'Aaron. Merci beaucoup. Kol hakavod. Mais qui est la femme d'Aaron? Alors, petite idée? Qui est la femme d'Aaron? Eh bien, les amis, la femme d'Aaron, c'est Elisheva bat Aminadav, Achot Nachshon. Nous dit le Talmud dans le traité de Baba Batra, Nachon. Vaikar Aaron est Elisheva bat Aminadav, Achot Nachshon. Ok, ça c'est le verset qu'il a pris pour femme, Elisheva, la fille de Aminadav, la sœur de Nachshon. Nous dit le Talmud, Mashma, Sheneemar bat Aminadav, Eini Odea, Sheyachot Nachshon. Ça, tu me dis qu'elle est la fille d'Aminadav, je ne sais pas qu'elle est la sœur de Nachshon. Mais pourquoi tu as besoin de me le dire? Et ma Talmud l'omar, achot Nachshon, mikan, shano seisha, tzor bibdok, beachera. Tane, rov, banim, domim, leache, haem. Quoi? Dans les villes de refuge? Alex, qu'est-ce que cette remarque vient faire? Mazé, dans les villes de refuge. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon ami, désolé. Bekitsour nous dit le Talmud. Quoi? Quand tu me dis qu'elle s'appelle la fille de Aminadav, je sais pas que c'est la sœur de Nachshon. Et là on dit non, mais pourquoi on t'a dit que c'est la sœur de Nachshon? Parce que c'est, il faut que tu apprennes que lorsque tu te maries avec une femme, eh bien, tu dois vérifier c'est quoi ses frères, quel style de frère elle a. Parce que la majorité des fils que tu vas avoir de cette femme vont ressembler à ses frères. Nachshon, il est Melech Israël. Ah, pas encore! Mais Nachshon, il est le chef de la tribu de Yehuda, il est le représentant de la Malchoute. En d'autres termes, Rabotai, tous les Kohanim sont les descendants d'un côté de Lévi, certes, ça c'est leur côté Aaron, mais ils sont également les descendants de Yehuda, de par leur mère. Il semblerait donc que les Kohanim sont, oui, reliés à la Malchoute, à la royauté, de par leur mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire, de par leur mère? Eh bien, ça veut dire quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'âme Israël n'a plus de roi, à partir du moment où la tribu de David n'a plus l'hégémonie sur la direction politique du peuple juif, vers qui doit-on se tourner? Eh bien, vers ceux qui, par la force de maman, sont les garants du peuple juif. Comprenez bien, lorsque le roi d'Israël est en place, lorsqu'il y a Melech Beisraël, eh bien, le Melech est le garant de l'identité juive. C'est pas lui qui enseigne la halakha au Beit HaMidrash, c'est Nachon, mais c'est lui qui est responsable que l'État garde un tzivion yéhoudi, garde un style juif. Qui a été le garant du fait que l'État d'Israël est un État juif? Eh bien, c'est David Ben-Gurion. Alors oui, il y a des gens qui l'ont aidé, le Rav Goren, le Rav Maimon. Mais pourquoi c'est David Ben-Gurion? Parce que c'est au final, c'est Ben-Gurion qui décide si le jour chômé de la semaine, ce sera dimanche ou ce sera Shabbat. C'est Ben-Gurion qui décide que l'hébreu soit la langue officielle de l'État d'Israël. C'est Ben-Gurion qui va décider que dans les institutions étatiques, on mange kasher. Alors évidemment qu'il y a des gens qui l'ont aidé, mais c'est lui qui au final est le garant. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les garants de l'identité d'Israël, c'est le Melech. Mais au moment où il n'y a plus de Melech d'Israël, celui qui prend sur lui d'être le garant, c'est le transmetteur, ça ne se dit pas. Celui qui transmet la Torah. Et ceux qui transmettent la Torah, c'est les Kohanim. Mais ces Kohanim, on a dit, qui sont attachés à Torah Imecha, à la Torah de maman, parce que c'est ça qu'ils sont responsables de transmettre, eh bien, Torat Imecha, c'est également ce qui les rattache à la Malchoute. Il n'y a donc aucune surprise que si, justement, la Malchoute doit passer par un autre village, par un autre tribu, ça sera la tribu de Yehuda, de Lévi. Je m'embrouille. La tribu de Lévi. Parce qu'ils viennent au nom de maman. Et c'est ce qu'on dit dans le livre de Dvarim. Barech Hashem Chelo, Upa'al Yadav Tirtse, Mechatzmot Naim Kamav, Umisan Av Min Yekumun. Mise, Barech Hashem Chelo. Nous dit Rashi. Resh Adra, Shatidim Chashmonai Uvanav Leilachem Mimriba, Shatidim Chashmonai Uvanav Leilachem Mimriba, Iman Yivanim, Veitpalel Aleem, Lefi Shayu, Moatim. C'est-à-dire quoi? Nous dit ici le Rashi de cette Torah, nous dit, c'est qui? Le Cheil, l'armée de Dieu? C'est Achashmonaïm. C'est Achashmonaïm qui vont prendre les armes pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et l'honneur du peuple juif. Achashmonaïm qui vont monter sur le trône, ils montent sur le trône en tant que fils de Elisheva. Ils transmettent la Torah en tant que fils de Aaron, mais ils montent sur le trône en tant que fils d'Elisheva. Bataminada vachot Narshon. Rabotai. Donc ça veut dire que, est-ce que les Kohanim, c'est Beseder qu'ils ont régné? Bevadai, c'est Beseder. L'idéal, c'est le roi, c'est Yehuda. Mais si Yehuda, pour l'instant, n'est pas capable, alors, de par leur mère, les Kohanim sont rattachés à la Malchut. Un parti politique a-t-il déjà tenté de rétablir le Sanhedrin depuis la création de l'État d'Israël? C'est une très bonne question. La réponse est non. Pourquoi? Parce que les partis politiques ne peuvent pas proposer des choses que personne n'a envie. Et vu que dans le peuple juif, dans le monde des religieux, personne n'a envie de se faire un Sanhedrin, alors, eh bien, il n'est pas fait. Pourquoi est-ce que personne ne veut faire un Sanhedrin? Est-ce que je te dis la vérité ou je ne te dis pas la vérité? C'est la question. Je peux te fasciner en te racontant quelque chose qui n'est pas vrai. En te disant, non, mais on peut pas, parce que faire le Sanhedrin, il faut des gens qui sont smouchis, mais on n'en a pas aujourd'hui, donc on peut pas. Ou alors, je peux te dire la vérité. C'est un problème d'ego. Pourquoi pas de Sanhedrin? Problème d'ego. Je t'explique. Le Rambam, dans Hilchot Sanhedrin, nous dit que pour qu'il y ait un Sanhedrin, il faut que ça s'asseye au Sanhedrin 71 smouchin. C'est quoi des smouchin? Ce sont des rabbins qui ont reçu leur ordonnance rabbinique de la smicha, c'est-à-dire de génération en génération depuis Moshe. Moshe était sommaire Yadav à Yehoshua, il a posé ses mains sur Yehoshua, et il lui a dit, c'est bon, tu peux me remplacer. Donc, c'est ça qu'on appelle la smicha. De génération en génération, les rabbinim, lorsqu'ils voulaient, eh bien, ordonner de leurs élèves rabbins, ils mettaient les mains sur leur tête et leur disaient, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Le problème, c'est qu'on n'a plus de smouchin. Et oui, les Byzantins nous ont interdit de continuer la smicha. Donc, il n'y a plus de smouchin. Mais dit le Rambam, il n'y a pas de problème. On peut réinstaurer la smicha. Comment? Eh bien, c'est très simple. Il faut simplement que tous les rabbins d'Israël s'accordent sur un d'entre eux et disent, celui-là, c'est le patron. À ce moment-là, ça lui confère le statut de samour. Et donc, il peut l'ismor acherim. Donc, tu as compris, pour qu'il y ait le Sanhedrin, c'est pas compliqué. Il faut que tous les rabbins d'Israël s'accordent sur un d'entre eux et de dire que c'est lui le chef. C'est lui le meilleur, c'est lui le patron. Bah, autant te dire que je pense que ça ne sera pas pour demain à ce moment-là. Hein. Hein, on connaît un petit peu les rabbins. Ils vont tous se mettre d'accord sur un. Nah. Et si Chas v'Shalom, ils décident que c'est un Ashkenaz, les Sfaradim, ils vont pas le recevoir. S'ils décident que c'est un Sfarad, ils vont pas le recevoir. Et Bichlal, ils croient que c'est un Témani. Mais Kitsour, ça va être le balagan. Donc tout ça pour dire que les Kohanim sont reliés aussi à la Malchoute de par leur mère. Lorsqu'ils prennent sur eux de se battre non seulement pour Torah Timecha, et là pour Malchoute Timecha, alors ils sont légitimes de prendre le pouvoir. Zebidiou Kainian. Mais à ce moment-là, ça ne répond pas à la question qu'on a posée préalablement. À savoir, est-ce que c'est Beseder qu'ils ont pris le pouvoir, les Khashmonaïm? On a dit oui. À savoir, est-ce que c'est Beseder qu'ils ont pris le pouvoir, les Khashmonaïm? On a dit oui. Est-ce que c'est Beseder qu'ils ne l'ont pas rendu? Oula, ilo. Ils auraient dû aller chercher des Béné Yehuda, qui étaient pour l'instant d'ailleurs à ce moment-là à Babylone. Et leur dire, venez, yala. Mais la question n'est pas de savoir si c'était les Seder qui ont pris le pouvoir ou pas. Pour les Hashmonaïm, qui sont ceux qui vont faire la fête de Hanouka, le problème, il est l'identité d'Israël. Ça, c'est le cours que j'avais mardi. Donc, pas de problème, ils vont se battre pour ça. Ils vont se battre pour ça, très bien. Mais là, on a juste un problème. Ils vont se battre et ils vont amener la Géoula, ils vont amener la réussite, ils vont amener la victoire et on va allumer les bougies. Colto. Mais la question, c'est, je vous ai dit, pourquoi on ne sait plus comment on va allumer les bougies? Là, je vais vous expliquer. Et vous allez voir le lien avec les Kohanim Torah Timecha. À l'époque de Hanouka, la menorah est le symbole de la victoire juive. Le symbole. C'est pour ça que la menorah est devenue le symbole juif par excellence, bien plus que la Magen David. Aval, où est-ce qu'on allume cette menorah? Eh bien, d'après Alan Nissim, la tefila d'Alan Nissim qu'on va dire dès ce soir, on dit Veidlikun Nerot Bechatserot Kotchecha. Mazé Bechatser? Bechatser, c'est pas dans le Kodesh, dans le Eichal, là où est normalement la menorah. Mais c'est à l'extérieur. À l'extérieur, pour avoir une influence énorme. Que tout le monde puisse le voir. En d'autres termes, la Hanoukia n'existait pas à l'époque. On mettait la menorah à l'intérieur, pas de la salle du Bézamine, mais elle était dehors. Comme ça, tout le monde pouvait le voir. Éphémère. Et maintenant qu'on a dit ça, les amis, deux secondes. Pour revenir à la division arienne et la main dans les yeux d'hier, je pensais que c'était Yosef, le garant d'Israël. Alors, tout d'abord, j'ai tout à fait répondu à ta question. Et je n'ai pas envoyé de deuxième message parce que la réponse à ta deuxième question est la même que la réponse que j'ai donnée à la première question. Donc ça, c'est pour ta pomme. Deuxièmement, pour ce qui est de Yosef et le garant d'Israël, je t'ai expliqué hier, je le refais ici, pas de problème, que Yosef est le garant de quoi? De la capacité qu'a le peuple d'Israël de trouver la Géoula, d'amener une Géoula, d'amener une Kedusha, derrière à Kalkala, derrière l'abondance matérielle. Pas forcément derrière à Shilton. C'est-à-dire, c'est deux choses différentes. Yosef est, un, l'ambassadeur par excellence, mais il est également le ministre de l'économie par excellence. Il n'est pas forcément le premier ministre. C'est-à-dire, il peut, mais pas forcément. Bekitsour, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? On a sorti la menorah. Autant vous dire qu'à l'époque des Hashmonaïm, Hanouka, c'est la fête la plus importante de l'année. C'est une fête qui est faite par les Hashmonaïm, au Beth Amikdash, la menorah. Tout le monde venait à ce moment-là. C'était la folie, la fête de Hanouka. Tu peux voir dans Flavius Joseph comment il raconte Hanouka au Beit Sheni. La folie. Jusqu'à ce qu'arrive un bonhomme. Jusqu'à ce qu'arrive et monte sur le trône Hérode. Hérode, il déteste les Hashmonaïm. Tout ce qui est Hashmonaïm, veut l'exécuter. Hérode va même aller jusqu'à faire massacrer la dernière reine Hashmonaïte, Myriam, qui n'était autre que sa femme. Il va même également inviter le dernier descendant des Hashmonaïm, Matityahu Antigonos, va lui trancher la tête au-dessus de la piscine de Yericho. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ami? Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ce niveau-là? Mais je vais te dire la chose suivante. À ce moment-là de l'histoire, les Hashmonaïm, semble-t-il, ne sont plus légitimes aux yeux de Dieu pour être les rois, mais ils sont plus légitimes non plus pour transmettre la Torah, puisque à ce moment-là de l'histoire, ils sont devenus tzdoukim, sadducéens, ils ont rejeté la Torah orale. Non, 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 parce que c'est l'année suivante qu'ils ont mis en place d'allumer les bougies. Donc c'est pas, enfin d'allumer, de faire la fête de Hanouka. Donc c'est pas du tout juste après pour annoncer qu'on avait libéré le Beth Amikdash. Et là, les amis, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe une chose très importante. À partir du moment où les Hashmonaïm, qui étaient les garants de Torah Timecha, tant pour la Torah orale que pour la notion de gouvernement, à la fin de l'épopée Hashmonaïte, les Hashmonaïm sont devenus tzedoukim. Ils ont rejeté la Torah orale. Puisqu'ils ont rejeté la Torah orale, ils ne sont plus légitimes en tant que Torah Timecha. Hérode prend le pouvoir. Mais t'inquiète pas, il a d'abord fait interdire toutes les festivités de Hanouka. À ce moment-là, il y a un chef du peuple juif, il s'appelle Hillel. Et Hillel, il décide que puisqu'on ne peut plus allumer la menorah devant tout le monde, eh bien on va la prendre, on va l'allumer à la maison. Mais la menorah, la lumière, le feu du Beth Amikdash, on va le mettre à un autre moment. Quand? À Sukkot. Mais Simchat Beth HaShoeva, c'est Hillel qui va nous mettre en place que Nisuch HaMaim, ça se fait avec des tornades de feu, des torches, des trucs, des jongleurs. Parce que tout le feu qu'il y avait à Hanouka qui était interdit au Beth Amikdash à cause de Hérode, Hillel l'a transposé là-bas, à l'époque de Sukkot. D'ailleurs, c'est pour ça que Shammai, Hillel et Shammai, hein, c'est Hillel et Shammai les deux qui ont fait ça. Mais c'est pour ça que Shammai, lorsqu'il va nous dire pourquoi est-ce qu'on allume la Hanouka de 8 à 1, il dit, il apprend ça des sacrifices qu'on fait à Sukkot. Vous allez dire, quel rapport Hanouka à Sukkot? Ben voilà, vous avez compris. Que les sacrifices de Sukkot, chaque jour, on en fait un de moins. Hillel lance à son époque l'idée qu'on allume une Hanoukia également à la maison. Et donc, puisque c'est quelque chose de nouveau, puisque pendant très longtemps, il y avait ce minhag, il a commencé juste après la guerre, mais vu que les Hashmonaïm en ont fait une victoire énorme de leur pays, il y a fort à penser que les gens n'allumaient plus, puisque eh bien, ils étaient participatifs à la mitzvah d'allumer la menorah qui était sortie dehors. Mais lorsque Hillel apparaît, c'est l'exil qui revient. Il faut redonner au peuple juif la capacité de se rattacher à Torah Timecha. Et donc, Hillel va nous dire, Hillel Shammai, vont dire il faut allumer devant la porte. Et donc, se repose la question qui avait été oubliée depuis longtemps. Oui, mais quand, où, comment on va allumer? Pourquoi n'ont-ils pas mis l'accent sur le Mizbeach ou Shulchan Apanim? Ah, Ephemeron. Pourquoi ils n'ont pas mis l'accent sur le Mizbeach ou Shulchan Echem Apanim? C'est la question que pose le Rav Kook dans le texte de Shmonek Vatsim, Kovetz Chet, Piska Kufnun Zain, dans lequel le Rav Kook explique que la menorah, elle est encore plus puissante que Aaron Abrit. Parce qu'Aaron Abrit dévoile la Torah. Mais la menorah, quant à elle, dévoile la Kedusha qu'il y a au sein même du peuple juif. D'où on sait que la menorah, c'est la Kedusha du Ham Israël. Et bien, parce que la Gemara nous raconte qu'il y avait un miracle dans la menorah tous les jours, avant Hanouka. C'était quoi ce miracle? C'est qu'à l'époque de Shimon HaTzadik, Haner HaMaharavi, la bougie occidentale, la plus à l'ouest, eh bien, ne s'éteignait jamais. Il y avait donc un miracle dans la menorah, Mikadmat Dena. Et nous dit le Talmud, mais ce miracle, il servait à quoi? De nous faire bien comprendre que la Shrina, la présence divine, règne au sein du peuple juif. En d'autres termes, la menorah, Zeyesod Ashrina Baolam. Et donc, il était fondamental d'en parler. Parce que c'est justement cette menorah qui nous fait nous rattacher à notre identité d'Israël, qui nous permet de faire la guerre contre les Grecs, qui nous permet de gagner à Hanouka, qui nous permet de ramener la royauté à Israël. Alors, est-ce que les Kohanim ont bien fait de régner? Oui. Est-ce que les Kohanim ont bien fait de se détacher de la loi orale? Évidemment que non. Nous, qu'est-ce qu'on doit en tirer? Eh bien, on doit en tirer comme leçon que on peut tout à fait être le même personnage qui va, si on en a les capacités, évidemment, mais qui va d'un côté transmettre l'identité d'Israël et deuxièmement se battre pour que cette identité puisse se réaliser. Hanouka, Sameach à tout le monde et en espérant vous revoir très bientôt la semaine prochaine. Pas court, mais la semaine d'après, on revient dans la Neshama de la Mishnah. À bientôt.